Chapitre 6. Les incertitudes de Mr. Burka. Le jour suivant se leva gris, pâle et froid, comme bien des jours de printemps. Et dès l'aube, Nancy entra dans la chambre du malade. Il était encore plus défait et plus abattu que la veille. Mrs. Halliday se réveilla en sursaut. Elle avait eu un sommeil pénible, agité. « Qu'y a-t-il, Nancy ? » demanda-t-elle presque avec un cri d'effroi. Elle connaissait cette femme depuis son enfance. Depuis la veille, elle la trouvait changée. Elle la regarda, elle resta comme stupéfaite. D'ordinaire, le visage de la brave femme avait tout le luisant d'une vieille pomme d'api conservée. Ce matin-là, il était méconnaissable, blême, d'une pâleur mate, maladive, effrayante. Georgie était glacée. Quant à Nancy, si vive, si gaie, elle semblait dominée par une force extraordinaire qui l'avait comme pétrifiée, lui imposant une attitude calme et impassible. « Qu'y a-t-il, Nancy ? » répéta Mrs. Halliday en se levant du canapé. « Ne vous effrayez pas, Miss Georgie, » répondit la vieille, qui était disposée à oublier que la femme de Halliday avait cessé d'être Georgina Craddock. « Ne vous effrayez pas, ma chère enfant, je n'ai pas été bien durant toute cette nuit, et je me suis tourmentée au sujet de Mr. Halliday. Si j'étais vous, je ferais venir un autre médecin. Ne prêtez pas attention à ce que dit Mr. Philip. Si adroit et si instruit qu'il soit, il peut se tromper, voyez-vous. Enfin, je ne veux pas vous en dire plus, mais suivez mon conseil, Miss Georgie, et appelez un autre médecin tout de suite, » répétait la vieille femme en serrant les mains de Mrs. Halliday avec une énergie passionnée, comme pour donner plus de force à ses paroles. La pauvre et craintive Georgie se recula avec terreur. « Vous m'épouvantez, Nancy, » disait-elle. « Croyez-vous Tom plus malade ? Vous n'avez pas été avec lui de toute cette nuit. Il a dormi avec beaucoup plus de calme. Qu'est-ce qui vous rend si inquiète ce matin ? Ne prenez pas garde à cela, Mrs. Georgie. Faites venir un autre médecin au plus vite, c'est tout. Mr. Sheldon ne dort jamais beaucoup. Je vais aller à sa chambre et lui annoncer que vous avez résolu d'avoir un nouvel avis. Mais pour cela, il faut que vous me souteniez. » « Oh, je le ferai !» s'écria Mrs. Halliday, qui n'était que trop disposée à subir l'influence d'une nature plus décidée et plus forte que la sienne. Nancy se dirigea vers la chambre de son maître. Le sommeil de Sheldon était sans doute très léger, si toutefois il dormait, car il se trouva tout éveillé au premier coup frappé par sa femme de ménage, et en moins de 2 minutes, il sortit de sa chambre à moitié habillé. Nancy l'informa que Mrs. Halliday était de plus en plus inquiète et qu'elle voulait consulter un nouveau docteur le matin même. 7 heures venait de sonner et le temps commençait à s'éclaircir. « Très bien, » dit Sheldon, « le ciel me préserve jamais de rien faire qui pût contrarier la chance la plus furtive, la plus lointaine de la guérison de mon ami. Si un étranger peut mieux que moi lui rendre la santé, que cet étranger soit appelé. » Sheldon ne fut pas long à se préparer pour satisfaire Mrs. Halliday. Il allait partir à jeun lorsque Nancy lui apporta une tasse de thé. Il prit la tasse presque machinalement et entra dans la salle à manger où Nancy le suivit. Pour la première fois, il remarqua dans la physionomie de sa ménagère ce brusque et singulier changement qui avait tant surpris Georgina. « Vous avez une très mauvaise mine, Nancy, » dit Sheldon, en fixant sur elle ses regards pénétrants. « Pour dire vrai, Mr. Philip, j'ai passé une très mauvaise nuit. Je me suis senti faible, malade. Je suis sûr que vous êtes trop fatigué. Oh non, ce n'est pas cela, Mr. Philip. Il n'y en a pas beaucoup qui puissent supporter la fatigue aussi bien que moi. Non, ce n'est pas cela. Mais j'ai pris hier au soir quelque chose qui m'a indisposé. C'est encore une folie plus grande à votre âge. Vous devriez savoir ménager votre estomac. Qu'est-ce que c'était ? Un mets trop épicé, je suppose. » « Non, monsieur, c'était simplement une goutte du bouillon que j'avais préparé pour Mr. Halliday. Il n'y avait pas de quoi faire mal à un enfant, bien sûr. »« Le croyez-vous ? » répliqua Philippe avec dédain. « Cela prouve seulement votre ignorance. C'est sans doute le bouillon qui était préparé dans la chambre du malade. »« Oui, monsieur, c'est vous-même qui l'aviez monté. » « Ah oui, en effet. Eh bien, Nancy, apprenez qu'un aliment qui est resté pendant des heures exposé à l'air pestilentiel de la chambre d'un fiévreux ne peut être pris sans inconvénient que par le malade lui-même. N'en doutez pas, c'est cette imprudence qui vous a rendu malade. Oui, monsieur, et j'ai eu des maux de cœur qui m'ont beaucoup gêné, répondit d'un ton plaintif la bonne femme. Que cela vous serve de leçon, ne prenez plus jamais rien qui vienne de la chambre d'un malade. Je ne pense pas que j'aie l'occasion de recommencer, monsieur. Que voulez-vous dire par là? Je ne crois pas que Mr. Halliday ait encore beaucoup de temps à vivre. Ah, vous autres femmes, vous voyez toujours les choses en noir. Dame, à moins que le nouveau docteur connaisse quelque remède qui puisse le guérir. Oh, je vous en supplie, monsieur, trouvez un bon médecin. Rappelez-vous, Mr. Philip, combien vous et lui étaient amis dans votre enfance, presque frères. Pensez à ce que diraient les méchantes langues s'ils venaient à mourir sous votre toit. Pendant cette conversation, Sheldon, debout près de la porte de la chambre, buvait son thé. Il leva la tête et regarda sa ménagère avec une expression de surprise profonde. « Que diable entendez-vous par là, Nancy? Qu'est-ce que mon toit a à voir avec la maladie de Mr. Halliday? Qui peut avoir à dire qu'il meurt ici ou ailleurs ?» Songez donc, monsieur, vous êtes son ami, vous avez autrefois courtisé Miss Georgie, et il n'a pas d'autre médecin que vous. Qui sait, monsieur? Les mauvaises gens pourraient se mettre en tête qu'il n'a peut-être pas été soigné comme il le fallait. Parce que j'étais son ami? Voilà qui est très logique. Eh bien, Mrs. Woolper, je vais vous dire la vérité, moi. Si toute autre personne que celle qui m'a nourri enfant avait osé me parler ainsi, je l'aurais immédiatement jeté à la porte. Tenez-vous-le pour dit, Nancy. » Il lui tendit sa tasse et sortit. Il s'était exprimé sans colère, mais simplement avec l'accent d'un homme qui réprimande une vieille et fidèle servante qui s'est permis une sottise ou une impertinence. Nancy resta sur la porte, le regardant s'éloigner, puis elle reprit avec une lenteur machinale ses opérations quotidiennes. En se disant à elle-même, « Cela ne peut pas être. Non, c'est impossible. » Philippe revint, moins d'une heure après, suivi d'un médecin du voisinage. Celui-ci vit le malade, discuta le traitement à suivre, prodigua à Mrs. Halliday quelques encouragements et se retira en disant qu'il allait envoyer une potion. La pauvre Georgie perdit de nouveau courage lorsqu'elle vit que le médecin se bornait à ordonner une potion. Son mari en avait déjà tant pris de ses potions. Elle regarda attentivement le nouveau venu pendant qu'il échangeait sur le seuil de la porte quelques mots avec Sheldon. C'était un tout jeune homme. Dans la pensée de Georgina, il était évident qu'il venait à peine d'obtenir son diplôme de docteur. Et il ne représentait en aucune façon l'homme auquel Sheldon eût dû vraisemblablement s'adresser pour qu'il l'aidât de ses lumières. « Il paraît bien jeune, » dit Georgie d'un ton de regret, dès que le docteur fut parti. « Cela n'en vaut que mieux, ma chère Mrs. Halliday, » répondit gaiement Philippe. « La science de la médecine progresse constamment, et les hommes jeunes sont ceux qui en savent le plus. » La pauvre Georgie ne comprit pas très bien, mais Sheldon lui avait parlé avec tant d'assurance qu'elle se rangea à son avis. Elle n'avait point coutume de discuter les opinions d'autrui. D'ailleurs, à cet égard, n'était-il pas évident que Sheldon en savait 10 fois plus qu'elle? « Tom semble être un peu mieux ce matin, » reprit-elle. Le malade s'était endormi. Il reposait dans l'ombre des lourds rideaux du vieux lit à colonnes. « Il est mieux, » répondit Sheldon. Et il me paraît même assez bien pour qu'à son réveil, je lui communique plusieurs lettres d'affaires qui sont à la maison depuis quelques jours. » Il s'assit alors à la tête du lit, où il attendit tranquillement que le malade se réveillât. « Mrs. Halliday, » dit-il quelques instants après, « votre déjeuner est prêt, vous devriez descendre pendant que je veille ici, il est bientôt 10 heures. »« Je n'ai pas faim du tout, » dit tristement Georgie. « Oui, mais vous feriez bien de manger un peu. » « Sinon, vous vous rendrez malade vous-même, et vous n'aurez plus la force de vous occuper de Tom. » Cet argument décida immédiatement Georgie. Elle descendit à la salle à manger, où elle s'efforça de suivre de son mieux le conseil de Sheldon. Les inquiétudes, les terreurs de sa tendresse lui faisaient oublier et sa jalousie et ses larmes et ses douloureuses solitudes. Elle ne se souvenait plus que d'une chose, il avait été aimant, bon pour elle pendant les premières années de leur mariage. Il l'avait rendue heureuse et demain peut-être il allait mourir. Sheldon attendit patiemment le réveil du malade. Il regarda deux fois sa montre en une demi-heure. Il se leva doucement et chercha dans la chambre de quoi écrire. Il trouva une sorte de buvard qui appartenait à Georgina et un coquet petit encrier ayant la forme d'une pomme avec une queue et des feuilles dorées. Il s'assura qu'il y avait assez d'encre et que les plumes étaient en bon état, puis il vint tranquillement s'asseoir auprès du lit. Le malade ouvrit enfin les yeux et, par un très léger sourire, il montra qu'il reconnaissait son ami. « Eh bien, Tom, comment vous trouvez-vous ce matin, mon vieux ? Un peu mieux, d'après ce que j'ai appris de Mrs. Halliday. »« Oui, je crois que j'éprouve une ombre de mieux, mais le diable veut que ce ne soit jamais qu'une ombre. »« La petite ne se plaint plus de moi, n'est-ce pas, Sheldon ? Ni de mes retards, ni de mes soupers aux huîtres. »« Non, non, plus à présent. Vous aurez à vous ménager pendant une ou deux semaines lorsque vous serez rétabli. » Halliday sourit un peu. « Je me surveillerai, soyez tranquille, si jamais je me rétablis. Mais figurez-vous que je m'imagine quelquefois avoir fait mon dernier souper en ce monde. Tout ce qui concerne ma petite femme est en règle, Dieu merci. J'ai fait mon testament il y a plus d'un an, et j'ai assuré sur ma vie une somme assez ronde, presque aussitôt mon mariage. Le vieux Cradock ne m'a pas laissé en repos jusqu'à ce que ce fût fait. Ainsi, l'avenir de Georgie est en sûreté, mais quand un homme a vécu comme moi, insouciant au jour le jour, pour ainsi dire, sans grande religion, il faut qu'il pense à l'autre monde lorsqu'il se sent prêt de quitter celui-ci. Hier, j'ai demandé à Georgie sa Bible. La pauvre chère créature en a été tout effrayée, ce qui vous indique, mon cher, à quel point il est rare que je lise la Bible. Non, Philippe, je sais que vous avez fait pour moi tout ce que vous avez pu, mais je ne suis pas d'une forte constitution, et je crains bien que tous les médicaments que vous pourrez me faire avaler n'y changeront rien. Cela n'a aucun sens, mon cher ami. C'est ce que disent tous ceux qui ne sont pas habitués à être malades, dès qu'ils se trouvent arrêtés un jour ou deux. « Mais voilà trois semaines que je suis au lit, » murmura d'un ton chagrin Halliday. « Bien, bien, peut-être que Mr. Burkham vous rétablira en trois jours, et alors vous ne manquerez pas de dire que votre ami Sheldon n'était qu'un ignorant. »« Non, non, mon vieil ami, je ne suis pas assez injuste pour cela. Je ne vous accuserai pas quand je sais que tout vient de la faiblesse de mon tempérament. Quant à ce jeune homme que vous avez amené pour faire plaisir à Georgie, je ne pense pas qu'il soit capable de faire plus que ce que vous avez fait. » « Nous trouverons moyen, nous deux, de vous rendre la santé, n'en doutez pas, Tom, » répondit Sheldon, du ton le plus encourageant. « Vraiment, vous paraissez ce matin presque aussi vaillant qu'autrefois. Je vous trouve si bien disposé que je crois pouvoir vous parler d'affaires, vous voyez. Il est arrivé ces jours derniers quelques lettres pour vous. Je n'ai pas voulu vous tourmenter, parce que vous étiez trop souffrant, mais ce sont, je pense, des lettres importantes, et vous feriez bien de les ouvrir. » Le malade regarda le petit paquet que son ami avait tiré de sa poche et secoua péniblement la tête. « Je me sens trop faible, il vaut mieux attendre. Ou ne pouvez-vous donc le faire pour moi ? Ouvrez-vous même ces lettres si vous voulez. » « Non, non, Halliday, je ne veux pas. Il y en a une qui porte le timbre de la compagnie d'assurance L'Alliance. Je présume que votre police d'assurance est bien en règle. » Halliday se souleva un instant sur le coude, comme s'il revenait à la vie, mais presque aussitôt, en poussant un soupir, il retomba sur les oreillers. « Je n'en sais rien. Vous feriez mieux de vous en assurer, Philippe, dans l'intérêt de ma femme. On croit souvent tout en règle lorsqu'une police a été signée par les administrateurs, et souvent on oublie qu'il y a la prime à payer. Ouvrez la lettre. Je n'ai jamais eu de mémoire pour les dates, et cette maladie me les fait complètement sortir de la tête. » Sheldon ouvrit donc l'imprimé que, dans sa bienveillance, il avait si judicieusement examiné la veille. Il le lut avec l'apparence d'une grande attention. « Vous avez raison, Tom. Les 21 jours de grâce expirent aujourd'hui. Il n'y a pas un moment à perdre. Il faudrait signer tout de suite un chèque, et je le ferai porter au bureau de la compagnie. Où est votre livre de chèque ? dans la poche du paletot qui est pendu là. » Philippe apporta à son ami le livre de chèques, le buvard de Georgie et aussi le petit encrier. Puis, avec une souplesse presque féminine, il rangea les objets de la façon qui lui parut le plus commode pour écrire. Il soutint avec son bras le corps affaibli de Halliday pendant que celui-ci écrivait lentement et péniblement le chèque. Lorsqu'il eut signé, Sheldon poussa un soupir, comme s'il eût éprouvé un profond soulagement. « Vous vous chargerez de l'envoyer au bureau de l'Alliance, mon vieil ami, » dit Halliday, en détachant du livre la petite feuille rectangulaire pour la remettre à Sheldon. « Oh, je crois que je n'ai plus toute ma tête. » « Mais non, Tom, mais non !»« Oh si, j'en suis sûr. J'ai eu toutes sortes d'hallucinations. Dites-moi, étiez-vous caché dans cette chambre la nuit avant celle-ci, pendant que Georgie était endormie ?» Sheldon réfléchit un instant avant de répondre. « Non, je n'y suis pas venu l'avant-dernière nuit. »« Non, eh bien je l'ai cru, » murmura le malade. « Vous voyez bien, je n'avais pas ma tête à moi. » Je me suis imaginé que j'entendais remuer les bouteilles et les verres derrière les rideaux. C'est que vous rêviez, probablement. Oh non, je ne rêvais pas, certes. J'étais aussi éveillé que maintenant. Mais ce n'est pas tout. Je me sens quelquefois pendant des heures entières aussi faible d'esprit que de corps, et je ferais bien de profiter du moment où j'en ai la force pour vous parler. Vous avez été pour moi le plus brave, le plus dévoué des amis. Je ne suis pas un ingrat. Si les choses tournent mal, comme je le crois, Georgie vous donnera un bel anneau de deuil, ou, si vous préférez, 50 livres pour en acheter un. Maintenant, donnez-moi votre main, que je la serre pour la dernière fois peut-être, et laissez-moi vous remercier de tout cœur. » Le malade avança sa pauvre main amaigrie, toute blanche. Philippe le regarda un instant d'une étrange façon, puis il serra la main qu'on lui tendait dans ses doigts souples et musculeux. Sheldon n'avait pas approfondi l'évangile. Cependant, lorsqu'il sortit de la chambre, il lui sembla subitement voir écrite sur le mur, en caractère de feu, cette phrase qu'il avait apprise étant petit enfant à l'école de Barlingford. Dès qu'il parut, il alla au-devant de lui en disant « Maître, maître !» et il l'embrassa. Le nouveau médecin venait voir le malade 2 fois par jour. Il paraissait inquiet et même déconcerté par les symptômes qu'il observait. Georgie, servie par l'instinct de sa tendresse, vit qu'il n'était pas sûr de lui. Elle fit part de ses appréhensions à Sheldon en demandant s'il ne serait pas à propos de remplacer Mr. Burkham par un docteur plus âgé, mais Sheldon s'y opposa formellement. « Vous avez demandé un médecin étranger, » dit-il, avec la dignité un peu solennelle d'une personne qui vient d'être offensée. Il faut suivre le traitement qu'il vous indique et vous contenter de ses avis, à moins que lui-même ne demande à être assisté. » Georgie fut obligée de se soumettre, et elle retourna à la chambre de son mari, où elle s'assit derrière les rideaux du lit pour pleurer en silence. C'était un triste séjour à ce moment que la maison de Sheldon, et plus d'une fois le pauvre Halliday s'excusa de l'avoir ainsi troublé. S'il eût été plus féru d'histoire, il se fut rappelé Charles Stuart et eut demandé pardon d'être aussi long à mourir. Cependant, l'espoir revint brusquement. Tout à coup, le malade sembla reprendre des forces, si bien que Georgie fut sur le point de considérer Mr. Burkham comme le plus grand savant et le plus habile des docteurs. Mais malheureusement, cela ne dura pas. Un matin, en faisant sa visite, le jeune médecin crut découvrir des symptômes nouveaux qui l'effrayèrent tout à fait. Il le dit à Sheldon, qui ne parut nullement partager ses craintes. Une discussion s'ensuivit, et l'on vit alors clairement que Sheldon était parfaitement de force à tenir tête à la science du docteur diplômé. Mr. Burkham écoutait ses avis avec déférence, ne l'interrompait pas, il n'était néanmoins qu'à demi convaincu lorsqu'il se retira. Il s'éloignit rapidement de la maison lorsqu'il s'arrêta tout à coup au coin de la rue. « Que dois-je faire ?» se demandait-il à lui-même. « Quel parti prendre ? Si je ne me trompe pas, je serai coupable de laisser aller les choses comme elles sont. Si je me trompe, je suis perdu si j'appelle un autre collègue. » Sa tournée du matin terminée, il ne rentra pas comme de coutume chez lui. Il fit le tour du square. Il semblait très préoccupé. Il prit même le chemin de la maison de Sheldon, puis revint sur ses pas et se décida enfin à rentrer chez lui. Il se mit à table pour dîner. Il était évidemment inquiet. Il répondait à peine aux questions de sa jeune femme. C'était un homme dans une situation assez précaire. Il avait employé toute sa petite fortune à l'achat d'une clientèle qui n'avait presque rien produit, et il luttait comme il pouvait contre les difficultés de la vie. « Vous avez quelque chose à l'esprit qui vous inquiète, Harry, » s'enquit sa femme avant la fin du repas. « Oui, ma chère, j'ai un cas très embarrassant et je suis fort tourmenté. » Sa femme se retira discrètement après le repas. Le jeune médecin resté seul se mit à arpenter sa chambre de long en large. Il paraissait très agité. Au bout d'une heure, il prit subitement son chapeau et sortit, décidé à retourner auprès de son patient et d'y être assisté par un autre médecin. Il regarda la maison de son malade au moment où il entrait dans la rue. Toutes les persiennes étaient fermées. Il frissonna, puis il se remit un peu, se disant que le soleil donnant en plein de ce côté de la rue, il était possible que la fermeture des persiennes n'eût pas d'autre cause. Un jeune garçon endormi, à l'air stupide, lui ouvrit la porte. Dans le couloir d'entrée, Mr. Burkham se trouva face à face avec Sheldon. « Je suis fort inquiet de mon malade depuis ce matin, Mr. Sheldon, » dit le jeune docteur, « et je viens avec la résolution formelle d'appeler en consultation un confrère plus expérimenté que moi. Pensez-vous que Mrs. Halliday y fera aucune objection ?»« Je suis certain qu'elle ne s'y serait pas opposée, » répondit gravement Philippe, « si vous l'aviez demandé plus tôt. » Mais j'ai le regret de vous dire qu'il est trop tard. Il y a une demi-heure que mon pauvre ami a rendu le dernier soupir. »